Bien. Bonsoir à tous. Merci d'être venus de manière très exceptionnelle. Je crois que nous allons peut-être pouvoir démarrer avec un peu d'avance, parce que nous sommes déjà tout au complet. Je ne sais pas comment nous ferons pour accueillir les personnes qui pourront arriver par la suite. Enfin, je suis ravi, en tout cas, qu'il y ait un public aussi nombreux ce soir pour venir à la rencontre de Dominique Bonnat. Merci, Madame Bonnat, d'être venue jusqu'à nous ce soir. Merci au public qui est donc là très nombreux. Merci à la librairie Mola qui nous accueille. Nous sommes absolument ravis d'être là réunis donc autour de Dominique Bonnat. Dominique Bonnat, je pense que tout le monde ici donc la connaît. Vous me corrigez si je dis des bêtises. C'est toujours possible, hélas. Vous êtes d'abord connue comme romancière. Vous avez eu plusieurs prix littéraires. Vous avez eu le prix Interallié, le prix Renaudot pour des romans qui ont fait grande impression. Peut-être êtes-vous encore plus connue pour vos travaux de biographe. Et me semble-t-il, dans Mes vies secrètes, que vous nous donnez maintenant chez Gallimard, en cette rentrée 2019. Vous nous donnez davantage, me semble-t-il, donc de pages, d'éléments sur ce travail de biographe que vous avez mené donc au fil des ans, dont nous allons parler, et où donc, au fond, vous évoquez toutes les personnes qui ont retenu votre intérêt. Je ne sais pas par où commencer, tant il y a deux choses dans ce livre, mais peut-être pouvons-nous commencer par le titre, parce que mille excuses, Mes vies secrètes, ça m'a fait penser évidemment à beaucoup de titres de livres anciens. L'un des moins convenables se trouve être My Secret Life, voilà, d'un auteur dont nous ne parlerons pas, britannique, sujet en grande forme, et qui a donc laissé des aventures très hautes en couleur. Je me suis demandé, puisqu'en plus vous démarrez par un paragraphe très beau, où vous dites que j'étais nu, complètement nu, au milieu de gens nus sur le pont d'un bateau écrasé de soleil au large de Majorque. Bon, je ne vais pas lire tout, mais c'est vraiment un début qui, évidemment, nous donne très envie de plonger dans ce livre. Je me suis demandé si ce n'était pas donc pour vous un moyen de placer l'ensemble au fond de votre œuvre sous le signe de l'amour et un moyen de nous dire qu'au fond, ce qui vous a tout particulièrement intéressé, c'est l'alchimie, le secret, les mystères dans les liens entre les êtres. Voilà. Et si, au fond, chemin faisant, ça n'a pas été surtout ce qui vous a guidé, piqué, intéressé.
Mais écoutez, je vous remercie pour cette entrée en matière un peu mystérieuse, évoquant un auteur un peu sulfureux, My Secret Life. Je veux tout de suite dire d'abord bonjour à vous tous qui vous êtes déplacés en cette fin de journée. Je regrette un peu de ne pas voir tout le monde parce que je n'ai pas une vue plongeante d'ici. Donc je vois les premiers rangs, mais au-delà, seule la voix pourra être une communication. Je ne vois pas. Et j'avais demandé à pouvoir parler debout, mais je ne peux pas parler debout parce qu'on n'a pas le droit de toucher le micro. Donc je ne peux pas avoir ce mouvement de me lever. Autrement, j'aurais parlé debout juste pour vous voir et pour vous dire que je suis toujours extrêmement heureuse de rencontrer mes lecteurs, qu'ils puissent se déplacer, qu'ils puissent venir échanger avec moi. Et j'espère que nous aurons l'occasion justement d'échanger tout à l'heure avec des questions. Voilà. Alors, je réponds bien évidemment à votre question. Donc, Mes vies secrètes, en vérité, c'est parce que je voulais raconter ce que je n'ai jamais encore raconté à mes lecteurs, c'est-à-dire ce qu'il y a entre les livres, mais ce qu'il y a aussi entre les pages des livres. Tout ce qu'on n'a pas l'habitude de raconter. Quand on se consacre à un personnage, et dans mon cas c'était Romain Gary, Berthe Morisot, Colette, Stefan Zweig, quand on se consacre à un personnage, normalement on s'efface, on disparaît. Le biographe fait une œuvre de recherche, d'enquête, et il est tout entier dans la vie de l'homme ou de la femme dont il a décidé de raconter l'histoire. Dans Mes vies secrètes, eh bien, je raconte pourquoi j'ai écrit ces livres et comment je les ai écrits. Je raconte les rencontres que ces livres m'ont offertes. Je raconte les difficultés de l'enquête, les embûches, les chausse-trappes, tout ce qui est compliqué quand on écrit un livre, et en particulier une biographie. Je raconte mes joies, je raconte mes peines. Enfin, voilà, je raconte ce qui est normalement secret. Si vous voulez, c'est un peu les coulisses du travail d'écriture, les coulisses du travail d'écrire. Et je l'ai appelée secrète parce que, en même temps, c'est vrai que le secret est peut-être un des ingrédients de mes biographies. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, je crois sincèrement que les êtres ont une part de mystère et que le biographe le plus appliqué, le plus travailleur, le plus minutieux se heurte toujours à une part secrète de l'individu. Je pense que vous-même pouvez expérimenter auprès de vos proches. C'est pas seulement valable avec des célébrités, avec des gens importants ou célèbres. C'est valable pour chacun d'entre nous. Il y a une zone infiniment secrète en chacun, y compris dans le cercle le plus proche. Donc voilà l'explication du secret. Quant au début du livre, j'étais nue, tout à fait nue, etc., sur un bateau écrasé de soleil au large de Majorque. C'est venu comme ça. C'est venu parce que c'est une image qui m'a marquée. C'est un souvenir très agréable de mes biographies. C'était pour écrire ma première biographie de Romain Gary, donc. C'était il y a longtemps. J'étais une très jeune femme. Et la biographie, ou plutôt le travail de la biographie, m'avait conduite aux Baléares. Il se trouve que Romain Gary avait eu autrefois une maison aux Baléares et j'ai voulu retrouver cette maison, voir où il avait vécu, parce que c'est aussi ça, le travail du biographe, retrouver les lieux. Et donc, ce livre s'ouvre sur une image solaire. Le soleil, c'est important pour moi. Je suis moi aussi du sud, pas du même sud que vous. C'est un sud méditerranéen, le mien. Je suis née à Perpignan. Mais le soleil a beaucoup compté. Je pense que le soleil dans les livres, c'est important. Le soleil, peut-être, vient aussi de ce qu'on écrit. En tout cas, voilà. J'avais envie de commencer ce livre au soleil, avec le soleil, et en même temps avec Romain Gary, parce que justement... Eh bien, Romain Gary, c'était la première fois que j'écrivais une biographie. Ça a peut-être été d'ailleurs la plus difficile à écrire. Et puis, c'est un des personnages les plus fascinants que j'ai pu rencontrer.
Sauf erreur.
Que je n'ai pas rencontré, que j'ai rencontré dans un livre, mais que je n'ai jamais rencontré réellement.
Sauf erreur, il était donc un peu négligé à l'époque, un peu oublié, et c'était finalement un pari aussi peut-être de s'emparer de ce projet, de réussir à raconter la vie d'un auteur qui avait été un peu moqué par la critique en fin de carrière et qui avait imaginé ce montage comme un moyen de montrer qu'il était encore capable d'étonner, de surprendre.
Oui, alors la vie de Romain Gary, c'est vraiment tout un roman. Vous savez que d'ailleurs, qui portait ce prénom, il s'appelait Roman Kassef. Il était d'origine d'Europe de l'Est. Il y a une longue histoire en Europe de l'Est de Romain Gary. Il a été élevé à Nice, où il est arrivé à l'âge de 13 ans. Et sa vie est vraiment, vraiment extraordinairement romanesque. Quand j'ai écrit ce livre, il était mort depuis quelques années. Il est mort, je crois, si je ne me trompe pas, en 1980. Et j'ai dû commencer ce livre 3 ou 4 ans après sa mort. Il n'y avait aucun livre sur lui. Il y avait ses livres à lui, mais le travail, au fond, consistait à rencontrer les témoins de son existence, tout son entourage. Et il y avait toutes sortes de milieux très différents. Il y avait le milieu de la littérature, le milieu du cinéma, les Américains, puisqu'il avait beaucoup vécu en Amérique, il était consul général de France à Los Angeles. Il y avait les compagnons de la Libération, parce qu'il est quand même compagnon de la Libération. Il y avait tous les camarades niçois, toute sa bande de copains niçois, qui étaient des gens tout à fait étonnants. Il y avait sa première épouse. Enfin, un nombre incroyable de gens à rencontrer. C'est à ce travail-là que je me suis attelée. Mais avant d'entrer dans cette enquête, il y avait la ferveur d'une très jeune femme, en l'occurrence moi, qui avait lu « Les racines du ciel ». En fait, quand j'avais 18 ans, un de mes amis m'avait offert, en cadeau d'anniversaire, « Les racines du ciel » en poche. Et je dois le dire, la lecture de ce roman a absolument changé mon existence. C'est banal de dire ça, et je ne voudrais pas que ce soit pris pour une phrase banale, parce que c'est au contraire une rencontre intense avec un écrivain à travers un livre. J'ai admiré profondément ce roman, je l'ai aimé. J'en ai aimé le héros, Morel, vous savez, qui mène ce combat pour sauver les éléphants d'Afrique. J'ai aimé tous les personnages secondaires, j'ai aimé Mina, qui est la compagne de Morel, qui est une ancienne prostituée berlinoise, et surtout, j'ai aimé la voix qui racontait cette histoire, une voix profonde, une voix d'homme, une voix à la fois virile et douce, une voix qui était capable d'expliquer la vie, d'expliquer l'amour, les hommes, les femmes, les enfants. C'était extraordinaire. Et c'est parce que j'ai aimé ce livre que je me suis intéressée à l'auteur. J'ai lu tous les autres Gary avec la même admiration, la même ferveur, et je me suis dit, mais Dominique va vers Romain Gary. Mais il avait disparu, il n'était plus là, il s'était suicidé, comme vous le savez sans doute, assez jeune. Il avait 65 ans à peine, enfin 64 peut-être. C'était après l'affaire Ajar, dont vous avez entendu parler, bien évidemment, qui était une histoire de pseudonyme littéraire. Et tout ça était très complexe, mais j'ai eu envie de le connaître. J'ai eu envie de savoir qui il était. Et c'est comme ça que je suis devenue biographe. Au fond, sur un coup de foudre. Un coup de foudre pour un écrivain. Et donc, quatre ans de recherche, quatre ans d'enquête. Je pourrais dire quatre ans de galère, parce que ça a été très difficile. Mais en même temps, j'ai jamais perdu cet enthousiasme et j'ai aimé écrire une biographie. Et c'est pourquoi, par la suite, vous m'avez dit, bon, la biographie, c'est sans doute pour ça qu'on vous connaît un peu mieux. Oui, j'ai aimé écrire des biographies, c'est-à-dire raconter des vies véritables, des vies de gens qui ont existé.
Dans ce livre, justement, vous parlez beaucoup plus de ce travail-là. Vous avez, en quelque sorte, accepté de laisser un peu de côté votre carrière de romancière pour laisser davantage parler la biographe qui est en vous ?
En fait, ça s'est fait très naturellement. Vous savez, finalement, quand on se met à écrire un livre, on ne se livre pas à une psychanalyse, on ne se demande pas pourquoi, etc. Les sujets s'imposent comme une évidence. Donc on se met à écrire et les questions viennent après. Les questions sur les raisons pour lesquelles on écrit un livre. Mais c'est vrai que le roman m'a toujours attirée. Je suis une grande lectrice de romans, j'en ai écrit. Mais à un certain moment, la biographie, c'est vrai, a pris le pas sur le roman. Ça s'est fait de manière fluide, instinctive. Et avec le recul, évidemment, je me suis interrogée, je me suis demandé pourquoi je m'étais éloignée du roman ou pourquoi le roman s'était éloigné de moi. Je ne sais pas, il y a comme une histoire de rupture, presque une rupture amoureuse entre le roman et moi. Et c'est en fait, je crois, parce que justement j'ai écrit beaucoup de biographies et que, au fond, il m'a semblé que la biographie m'offrait du romanesque à la puissance mille. C'est-à-dire que les vies que j'ai racontées, que ce soit celle de Romain Gary, qui est peut-être une des plus extraordinaires, mais même la vie de Berthe Morisot, la vie de Camille Claudel, la vie de Colette, Ce sont des aventures qu'un romancier n'oserait pas inventer quelquefois, parce qu'on vous accuserait d'invraisemblance. Ou quand, par exemple, vous racontez, je raconte que Malraux, très jeune, avec sa première épouse, avec Clara Malraux, étant allé au musée Guimet à Paris, ayant admiré tous ces arts d'Asie, a eu l'idée d'aller au Cambodge, non pas pour faire du tourisme, mais pour en rapporter des pièces d'antiquité, pour découper des fresques. Et il s'est équipé à ce qui était l'équivalent de la Samaritaine, si vous voulez, pour l'époque. Il a acheté tout ce qu'il fallait, des scies pour découper la pierre, des grandes malles pour y mettre les vestiges trouvés. Enfin, il avait tout un attirail d'explorateurs acheté à la Samaritaine. Bon, ça, si vous l'inventez dans un roman, vous dites « Oh, c'est rocambolesque », etc. Et c'est la vraie vie de Malraux. En tout cas, c'est un épisode savoureux, il faut le reconnaître, de la vie de Malraux. Surtout quand on sait ce qu'il a fait après, qu'il est devenu ministre de la Culture et qu'il a protégé le patrimoine. C'est intéressant de connaître ses débuts. Voilà, donc c'est cet aspect-là, si vous voulez. Le romanesque dans la biographie m'intéresse beaucoup. Mais évidemment, il y a quand même une frontière entre le roman et la biographie, puisque le roman, normalement, c'est le domaine de la fiction. Et la biographie, c'est le domaine de ce qu'on pourrait appeler la vérité, vérité qui n'est pas forcément toujours très objective, parce qu'il y a forcément un regard de biographe dessus, mais on s'efforce à l'objectivité. On n'invente pas des épisodes d'une vie. Moi, je n'invente pas de dialogue dans mes biographies. Non, tout repose sur une documentation la plus rigoureuse possible. Mais malgré cette frontière, les deux genres sont quand même assez fraternels, puisque l'un et l'autre racontent une histoire.
Et quelle histoire ? Parce que il est vrai que vous vous êtes donc attaché à des personnages avec une vie pleine de rebondissements. Parmi les personnages, on pourrait en évoquer un certain nombre. Je pense que Jeanne Loviton est l'un des plus étonnants. Mais souvent, donc, ce sont des maîtresses femmes aussi, enfin, ou en tout cas des femmes très fortes. Est-ce qu'il y a eu une volonté particulière à un moment d'aller, en quelque sorte, proposer des biographies qui manquaient pour des personnages qui étaient trop mal connus, méconnus ou maltraités
Alors, je suis allée spontanément vers des personnages qui m'intéressaient, je l'avoue. Je suis allée spontanément vers des artistes. Je ne raconte pas des vies de rois ou de reines de France ou de Navarre. Je ne raconte pas des vies de grands généraux, ni d'hommes de science ou de femmes de science. C'est vrai que je raconte des vies d'écrivains ou d'écrivaines, puisque on met maintenant un « e » au métier féminin. Je raconte des vies de peintres, de sculpteurs ou de sculptrices. Donc c'est l'art qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je trouvais que ces visions d'artistes étaient intéressantes parce que les artistes ont une façon de regarder la vie qui est un peu différente. Ils ont un recul par rapport à l'existence quotidienne. Ils en offrent une interprétation. Et c'est cette interprétation qui m'intéresse, à la fois dans l'écriture ou dans la peinture. Moins dans la musique, parce que je ne suis pas musicienne, à peine mélomane, du tout musicologue. Et donc, même s'il y a des musiciens, et notamment Debussy, qui traversent mes biographies, ils sont toujours plutôt à l'arrière-plan. Et je ne crois pas que je pourrais écrire sur un musicien.
J'insiste beaucoup sur le côté de ces femmes fortes.
Alors, reviens aux femmes fortes. Je me suis égarée par rapport à votre question, excusez-moi.
Vous êtes libre.
Alors, ces femmes fortes. Alors, je ne me suis pas dit un beau matin, je vais écrire sur des femmes fortes. Non. Surtout qu'au fond, je préfère la fragilité chez les gens plutôt que la force. Je trouve que même les gens très forts, d'ailleurs, souvent ont des faiblesses cachées et qui sont souvent très attachantes. Donc, non. Mais je dirais plutôt que je suis allée vers des figures passionnées. La passion est commune à Berthe Morisot, à Camille Claudel, à Clara Malraux, à Colette. Ce sont des femmes, elles sont fortes en ce sens que elles se donnent à fond à une cause, que ce soit la cause de la peinture, de la sculpture, ou tout simplement, par exemple, je pense à Clara Malraux, je crois qu'elle avait une volonté farouche d'exister, elle voulait signer sa vie, ça c'est sa formule, je la trouve très jolie, elle voulait signer sa vie, elle a eu beaucoup de mal, parce que justement elle était dans l'ombre d'un homme extraordinaire et qui lui semblait la dominer, et elle en souffrait, mais elle voulait exister. Je crois que toutes ces femmes ont voulu signer leur vie. Et c'est cette démarche-là qui m'a intéressée. J'ai voulu comprendre comment elles y étaient parvenues. Pour certaines d'entre elles, ce n'était pas facile, parce que être peintre au XIXe siècle quand on est une femme, être sculptrice au XIXe siècle, ce n'est pas facile. Je pense à Berthe Morisot, à Camille Claudel. Elles ont lutté, elles étaient toutes les deux issues d'un milieu bourgeois qui n'était pas non plus favorable à l'éclosion d'une âme d'artiste, parce que c'était assez mal vu dans les milieux bourgeois qu'une jeune fille devienne artiste, fréquente les ateliers, c'était des endroits de perdition aux yeux de la bourgeoisie. Donc elles ont eu à quand même aller contre des préjugés, lutter contre des préjugés, affirmer leur personnalité. Elles l'ont fait d'ailleurs de manière très différente les unes ou les autres. Camille Claudel dans la rupture d'une très douloureuse qui la conduira à la folie, sinon aux portes de la folie. Au contraire, dans une recherche d'harmonie pour Berthe Morisot, qui a toujours essayé d'établir un équilibre entre sa vie de femme, sa vie de famille et son métier ou sa passion de peindre.
Dans l'ensemble, il y a eu donc énormément de personnes très étonnantes. J'évoquais tout à l'heure le cas de Jeanne Lhoviton. Ça me fait penser à ce souci de vérité que vous avez évoqué. Quand le biographe est face à une personne qui est, si troublante, à la fois par un côté effectivement très construit, c'est quelqu'un qui a dominé, maîtrisé sa vie de bout en bout, et en même temps, c'est quelqu'un qui a un côté un peu sombre, pour ne pas dire noir. Comment vous vous en êtes arrangé dans cette manière avec laquelle vous vous êtes emparé de cette existence et de son lien avec Paul Valéry?
Oui, peut-être faut-il rappeler qui était Jeanne Lhoviton, parce que elle était donc le dernier grand amour de Paul Valéry, elle a aimé pendant les 7 dernières années de sa vie. Son nom de plume, car elle écrivait des romans, c'était Jeanne Voilier, et même d'ailleurs pas Jeanne Voilier, mais Jean Voilier, puisqu'elle avait pris un nom d'homme. C'était plus facile à ce moment-là d'écrire sous un nom d'homme, ça faisait beaucoup plus sérieux que d'écrire sous un nom de femme. Donc Jean Voilier, qui était une femme très belle, qui avait à peu près 30 ans de moins que Paul Valéry, lui a fait perdre la raison. C'est extraordinaire parce que Paul Valéry, c'est quand même Monsieur Test, c'est un homme qui vit beaucoup par l'intelligence, dont peut-être la qualité maîtresse est la lucidité, qui toute sa vie s'était juré de ne jamais succomber à une passion, en particulier une passion amoureuse, tout ça étant le résultat d'une longue histoire, parce qu'il avait été très jeune, très amoureux fou, d'une silhouette aperçue dans une rue de Montpellier, et il en avait été très malheureux. Et donc il s'était juré de ne jamais plus connaître cela. Et en fait, tout à la fin de sa vie, il a rendu les armes, il est tombé amoureux de cette jeune femme, qui a d'ailleurs fasciné beaucoup d'autres hommes, puisqu'elle avait été la maîtresse de Giraudoux, qu'elle serait la maîtresse de Saint John Perse et de beaucoup d'autres hommes. C'est une Don Juan, on pourrait dire, Jeanne Voilier. Et donc, alors tout ce que je vous raconte, je ne l'invente absolument pas, on le sait. Et on le sait comment? c'est que cette liaison cachée, qui était tout de même de la part de... Elle était célibataire, ou plutôt elle était divorcée. Mais lui était marié, il avait une famille, c'était un père, un grand-père. Bon, et donc cette liaison était adultère. Gardée longtemps secrète, on revient au secret. Mais on la connaît parce que près de 40 ans après la mort de Paul Valéry, vous savez qu'il est mort en 1945, Jeanne Voilier a vendu aux enchères à Monaco, chez Maître Tajan, les 1000 lettres d'amour que lui avait adressées Paul Valéry. Donc, tout à coup, cette correspondance amoureuse secrète est apparue publiquement. Ce sont d'ailleurs deux universités qui ont racheté ces lettres, deux universités, l'une américaine, l'autre japonaise, pour une somme très très élevée qui a permis à Jeanne Voilier, et elle l'a dit crûment, journaliste qui l'interrogeait, de profiter des dernières années qui lui restaient à vivre luxueusement. C'était une femme de luxe, c'était une femme qui aimait la vie facile, et elle a expliqué que lorsqu'elle était... liée à Paul Valéry, Paul Valéry qui n'avait pas tellement de moyens, c'était un poète célèbre, très célèbre et même glorieux, qui a eu droit à des obsèques nationales dans notre pays, que le général de Gaulle a vraiment fait enterrer de manière tout à fait officielle et glorieuse, eh bien, il n'était pas riche. Et donc, Jeanne Voilier a raconté, on a toutes les interviews dans la presse, vous pouvez aller vérifier dans les journaux de l'époque, elle a raconté que c'était en quelque sorte le cadeau posthume, parce qu'il n'avait pas pu la couvrir de bijoux pendant sa vie, et voilà que les bijoux allaient pouvoir être achetés grâce aux lettres. Ce sont des lettres extraordinaires. Elles ont depuis été publiées par Gallimard, les lettres d'amour donc de Paul Valéry, ce sont des lettres d'une grande beauté. Et pour ceux qui penseraient encore que Paul Valéry est un poète difficile, pour ceux qui ont eu du mal avec la jeune Parc, vous découvrirez dans ces lettres d'amour un homme qui parle de l'amour de la manière la plus simple, la plus sensuelle, la plus câline, la plus tendre. Ce sont des lettres vraiment très très belles. Et donc j'ai écrit ce livre pour savoir... à la fois qui était cette mystérieuse muse, mais aussi et surtout d'ailleurs, qui était le Paul Valéry amoureux de Jeanne Voilier. Et donc, dans ce livre qui s'appelle « Je suis fou de toi », cette phrase étant une citation de Paul Valéry dans une de ses lettres, mon titre reprend une phrase de Paul Valéry, donc « Je suis fou de toi », je raconte en fait comment M. Test a perdu la raison. Il analyse lui-même ce qui lui est arrivé, et il a cette phrase extraordinaire en conclusion, quelques jours avant de mourir, dans son journal. Il a conclu lui-même sa propre histoire d'amour. Le cœur triomphe. Et le cœur est écrit avec une majuscule.
Dans votre livre, sauf erreur, j'ai été étonné que vous parliez un peu moins de Colette que l'on aurait peut-être attendu, comme évidemment... un des auteurs les plus passionnants du siècle et donc une femme à qui vous avez consacré de belles pages. Était-ce naturel, volontaire, ou en avez-vous vous-même été surprise ?
Colette est quand même présente dans ce livre, il me semble. Elle est là, mais elle n'a pas son chapitre pour elle toute seule. Je dirais qu'elle nourrit le livre. Elle l'irradie parce que Colette, c'est mon dernier livre en fait, le dernier livre avant Mes vies secrètes, j'ai écrit Colette et les siennes. Certains d'entre vous l'ont peut-être lu, je ne sais pas. Donc un avant-dernier livre consacré à Colette, qui est une romancière que j'aime beaucoup, que je relis toujours. D'écrire ce livre m'a appris beaucoup de choses, pas seulement sur Colette, mais sur l'art de vivre. Parce que Colette, c'est une vivante, une grande vivante. C'est une femme qui a aimé profondément la vie, c'est une grande sensuelle, qui vivait par les cinq sens à la fois, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, enfin les cinq sens sont toujours là avec Colette quand elle vit, quand elle écrit. D'ailleurs, dans ses livres, c'est une écriture avec des images, avec des sons, avec des parfums, et presque avec des sensations du toucher. Donc elle m'a appris, enfin elle m'a communiqué sa leçon de vie. Je me suis rendu compte qu'on pouvait, et c'est le cas de Colette, se lever le matin avec un sourire dès qu'on écarte le rideau sur le jour, et se coucher le soir avec le même sourire après avoir contemplé la nuit étoilée. Elle est formidable parce qu'elle goûte. Elle goûte les plaisirs simples, les tout petits plaisirs infimes de la vie. Et ça, quelquefois, je ne sais pas toujours le faire. Moi, je suis volontiers mélancolique. Et donc, écrire sur une femme comme ça vous fait un bien fou. D'ailleurs, aussi la lire, je vous conseille vivement Colette dans les moments de mélancolie, parce que elle vous extrait de la mélancolie. C'est une femme qui a beaucoup souffert. C'est une femme qui a été... D'abord, elle a eu une très mauvaise santé. Elle avait du surpoids, comme on dit aujourd'hui. Beaucoup de surpoids. Et elle a beaucoup d'arthrite. Donc, à la fin de sa vie, elle était quasiment paralysée. Donc, problème de santé, mais aussi en amour. En amour, elle a été trahie tellement souvent. C'est incroyable. Mais ça n'a jamais brouillé avec l'existence et elle est toujours parvenue à garder en elle cette espèce de feu. Donc Colette, au fond, elle est là. Et d'ailleurs, il y a quand même un chapitre où elle est beaucoup plus là encore, c'est le chapitre des maisons. Parce qu'il y a un chapitre sur les maisons de mes personnages, toutes les maisons de Gary, les Zweig à Salzbourg, les sœurs Heredia à Arcachon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme maison, je ne sais plus.
La maison de Jeanne Louviton, justement, dans le 16e
arrondissement. Ah oui, merci. La maison de Jeanne Louviton, Jeanne Voilier, rue de l'Assomption, qui était une maison. Ça, malheureusement, elle a été rasée par un promoteur qui a fait un grand immeuble. Mais bon, il y avait tout ça. Bon, et moi-même, je n'ai plus de maison. Finalement, les maisons de mes personnages étaient devenues un peu les miennes. Et alors, les maisons de Colette, c'est ce qu'il y a de plus accueillant, de plus hospitalier. Il y a la maison de Bretagne, qui est très importante, parfum d'embrun. C'est une maison au bord de la mer, enfin de l'océan, plus exactement, sur la plage, sur la dune. C'est un coin, quasiment une plage privée. Une plage pour elle, personne ne vient sur ce bout de plage. Et puis elle a passé quelques années à Saint-Tropez, bien qu'elle ne soit pas du tout une méditerranéenne, c'est une vraie bourguignonne, mais elle avait trouvé cette petite maison où je suis allée, une maison rose sur la route des Salins. Et cette maison, elle est comme dans un écrin, n'a pas changé. Il y a la même glycine, je vous assure, la même glycine, avec des racines énormes, cette glycine, sur la façade. Que du temps de Colette, emmêlée d'ailleurs à des rosiers grimpants. Alors elle s'asseyait au bord de cette glycine avec les abeilles qui venaient bourdonner autour d'elle et elle lisait ou elle rêvait ou elle dormait. Mais je l'imaginais complètement en étant dans cette maison, c'était formidable. L'intérieur aussi était pareil, une toute petite cuisine, des petites pièces. C'est modeste chez Colette, mais c'est signé, pour reprendre un mot de Clara Malraux, c'est-à-dire on est vraiment chez elle, donc c'est cette atmosphère de romancière, de femme qui écrit toute la journée. C'est, oui. Donc Colette, oui, elle est quand même là de temps en temps, mais si vous voulez, j'ai pas voulu être systématique, un chapitre pour l'un, un chapitre pour l'autre. Non, ça aurait été ennuyeux, un peu. Non, il faut être souple, un peu. Et puis alors, c'était un livre un peu promenade. C'était une promenade dans quelques souvenirs. J'ai suivi les images, j'ai suivi les évocations, comme ça, comme un jour j'avais envie d'écrire, voilà, sur Paul Valéry, allons-y pour Paul Valéry, et au fond Colette s'est réservée pour la fin, pour ce chapitre sur les maisons, Voilà. Mais elle est dans mon cœur, on va dire.
Par-delà les maisons, effectivement, on sent que vous êtes très sensible aux manières de vivre. Vous traitez abondamment du rapport un peu finalement entre l'art, la façon dont ces personnes ont pu s'inscrire effectivement dans des pratiques. Et vous ne négligez jamais au fond ce qu'est le rapport à la nature, aux maisons, enfin leur manière de vivre. On sent que c'est quelque chose de très important pour vous dans la façon dont vous les abordez. Vous évoquez souvent leur rapport ou à la cuisine ou à autre chose. Comment, au fond, leurs œuvres sont aussi nourries de tout ça?
Oui, parce que si on revient à l'origine du mot, vous savez, ce mot biographie, il intimide un peu quelquefois. C'est un mot savant, c'est un mot grec. Par rapport au roman qui est tout fantaisie, plein de promesses d'évasion, la biographie est un peu intimidante. En fait, la biographie, ça veut dire l'écriture du vivant. Bon, quand on raconte la vie d'un homme ou d'une femme, il faut le situer dans son époque. Quand on évoque un artiste, il faut le situer dans son œuvre. Mais ils sont quand même un homme ou une femme. Donc, ils ont une vie, une existence. C'est le quotidien. 80% de nos vies, c'est le quotidien. L'endroit où l'on habite, la façon dont on se nourrit, les amis qui sont autour de vous, les enfants ou pas d'enfants, etc. Donc tout ce côté, peut-être même plus que quotidien, l'intime, le cercle intime. J'ai jamais vraiment trop cru aux légendes de bronze, vous voyez, statues de bronze sur un piédestal, non. C'est pas forcément pour faire tomber le personnage du piédestal et puis le mettre à terre et le traiter comme moins que rien, pas du tout. Mais c'est pour le rapprocher de nous, pour retrouver la personne vivante dans la statue de bronze. Parce que ce soit Gary, que ce soit Colette, que ce soit Zweig, ce sont quand même des personnages très 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 célèbres, un peu lointains à la fois par le temps, mais aussi par la célébrité. La célébrité éloigne les gens. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment ils étaient devenus des célébrités, c'est-à-dire qu'ils étaient dans leur enfance, dans leur adolescence, quelquefois tourmentés, et quel a été le chemin, en fait, quel a été le chemin vers leur œuvre, vers ce qu'ils nous ont légué, voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de comprendre dans chacune de mes biographies. En fait, j'écris souvent pour connaître quelqu'un. D'accord. Quelqu'un que j'admire ou que je n'admire pas, mais qui me paraît intéressant, lumineux, mystérieux, enfin, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut s'intéresser à Berthe Morisot ou à un autre personnage.
Souvent aussi, j'ai l'impression que vous avez cherché à écrire pour rétablir des vérités ou lutter contre des idées reçues, notamment au sujet de Camille Claudel et des rapports qu'elle a pu avoir avec son frère, qui était un peu perçu comme le méchant dans l'histoire, qui avait fait enfermer sa sœur. Et vous avez montré que les choses sont peut-être plus complexes qu'on a pu le croire.
Oui, quand j'ai écrit mon livre sur Camille Claudel, en fait, il y avait déjà eu ce film que vous avez sûrement vu avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. Il y avait déjà eu le roman et la pièce de théâtre d'Anne Delbé. Il y avait déjà eu la publication des livres de Reine-Marie Paris qui propose donc un relevé de ces sculptures. Donc, si vous voulez, je ne me voyais pas rajouter encore un ouvrage sur Camille, mais il me semblait qu'il y avait quand même un aspect vraiment intéressant et qui était négligé par aussi bien le film que tous les livres, c'était les relations du frère et de la sœur. Quand même, dans une même famille, à la même génération, arrivent deux génies, deux artistes géniaux. Vraiment, le mot génial leur va bien parce qu'ils sont démesurés. L'un comme l'autre, Paul Claudel, le poète, et Camille Claudel. Et je me disais, c'est quand même assez étonnant, c'est rare. Bon, comment s'entendaient-ils? Est-ce que vraiment Paul, qui est quand même l'auteur de Tête d'or, du Soulier de satin, de Partage de midi, qui sont des pièces remarquables, d'une poésie inouïe, presque extraterrestre, qui propose des sentiments passionnés, subtils. Est-ce que vraiment Paul a été ce monstre pour sa sœur? Parce que c'est l'idée qu'on a. C'est l'homme qui ne l'a pas libérée de l'asile, c'est l'homme qui n'allait pas la voir, etc. Donc, comme je n'aime pas tellement juger a priori, et même je n'aime pas du tout juger a priori, je préfère ne rien savoir et aller tout doucement vers les personnages et interroger ce qui peut nous aider à répondre. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur Paul Claudel, j'ai beaucoup travaillé sur Camille Claudel, jusqu'à ce chapitre où je raconte que je suis évidemment allée à l'asile où a vécu Camille pendant 30 ans. Donc, à côté d'Avignon. Et c'était difficile d'aller là, parce que rentrer dans un asile psychiatrique, c'est difficile. Et voilà. Donc, je pense que dans l'existence, rien n'est blanc ou noir. Je crois assez au gris, malheureusement, dans l'ensemble. C'est-à-dire, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Et en l'occurrence, c'est vrai que les relations de Paul et Camille, d'abord, ces relations ont été très belles pendant leur enfance et leur adolescence. Ils ont été très proches. Ils se sont compris, se sont aimés, ils se rejoignaient dans cette passion commune pour l'art. Paul était plus jeune, c'était le petit frère. Et ensuite, la vie les a séparés, parce que Paul est parti pour la Chine. Vous voyez, on est quand même en 1900. Bon, partir pour la Chine en 1900, c'est un très grand voyage, on ne revient pas pour un oui, pour un non à Paris. Donc il partait pour plusieurs années en Chine, il est revenu avec une histoire d'amour terrible, tragique, donc voilà. Et au fond, ils ont vécu séparément, et là, il n'y a plus cette complicité qui avait été la leur, et qui avait été une partie de leur force d'ailleurs. De sorte que Camille a été très isolée. Paul Claudel n'a pas pu la protéger, c'est vrai. Paul Claudel a fait partie des gens qui ont conduit sa sœur à l'asile. Elle avait une cinquantaine d'années, elle était très malade. Elle se détruisait elle-même. Voilà. Alors là-dessus, je ne continue pas parce qu'on y serait encore demain matin. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe un dossier médical que j'ai consulté, comme tous les gens qui ont écrit sur Camille. Il faut aller à l'asile pour voir ce que c'était l'asile de Mondevergue et ce que représente 30 ans d'enfermement sans sortir un seul jour, avec interdiction de la moindre correspondance. Donc elle a été vraiment, elle a eu une vie terrifiante. Paul Claudel est allé la voir, contrairement à ce qu'on a dit, une douzaine de fois. J'avais relevé le nombre de visites. Contrairement à sa mère, qui, comme vous le savez peut-être, n'est jamais allée voir sa fille à l'asile. Et contrairement à sa sœur, qui est allée une seule fois, l'autre sœur, Louise. Voilà. Alors bon, tout ça est dans mon livre, de manière plus pesée que maintenant, quand je réponds à ce micro un peu rapidement. Et il y a un chapitre, évidemment, là-dessus, dans Les Vies secrètes. J'aime beaucoup Camille Claudel. J'ai plus d'une fois essayé une comparaison, d'ailleurs, entre Camille et Berthe. Deux artistes à peu près de la même époque, Berthe Morisot est plus âgée, qui ont eu de rudes destins, qui ont été longtemps dans l'ombre, presque oubliés. D'ailleurs, Berthe Morisot aussi. C'est une renaissance de Berthe Morisot depuis quelques années. Chez Camille Claudel, ça a été fulgurant, cette renaissance. Chez Berthe, c'est une ascension lente. J'en profite pour dire qu'il va y avoir une exposition Berthe Morisot au musée d'Orsay au mois de juin. Enfin. Et alors, il y a une grande différence entre elles, je crois, et c'est leur mère. La mère de Berthe a été la meilleure amie de Berthe. La mère de Camille a été terrible avec Berthe. Avec Camille, je veux dire. Elle n'a pas pu comprendre sa fille. Elle n'a pas accepté que sa fille soit une artiste. Et de là vient sans doute, si vous voulez, viennent beaucoup de choses, en tout cas. Deux mères différentes.
Dans cette carrière, vous vous êtes aussi parfois intéressé à des personnes que l'on attendrait un tout petit peu moins entre Stéphane Zweig et Romain Gary. C'est André Mauroy qui est un auteur un peu oublié et qui vous a intéressé pour des motifs un peu inattendus.
Oui, complètement inattendu. Enfin, je ne crois pas que j'aurais écrit une biographie d'André Mauroy, qui pour moi, c'était un peu l'écrivain de la génération précédente, c'est-à-dire l'écrivain qui était dans la bibliothèque de ma mère et même de ma grand-mère. C'était un monsieur très sérieux qui m'en imposait. J'adorais ses biographies, bien évidemment. C'est un maître de la biographie, André Mauroy. Mais enfin, bon, il s'était un petit peu perdu à l'horizon. Avec mai 68, elle l'avait un petit peu effacé du premier rang de la scène. Mais un jour, j'ai reçu une lettre d'un médecin spécialiste en neurosciences et qui me disait « Je suis le gendre d'André Mauroy, j'ai hérité de tous les papiers d'André Mauroy, voilà, venez, je vais vous montrer tout ça, c'est formidable, vous pourrez écrire une vie d'André Mauroy ». Bien évidemment, je n'avais aucune envie d'écrire une vie d'André Mauroy, mais il se recommandait d'un monsieur très important qui s'appelait Maurice Druon. Maurice Druon était secrétaire perpétuel de l'Académie française. Je me suis dit, non, je ne peux pas refuser d'aller voir un ami de Maurice Druon. Donc je suis allée, et alors il habitait le 16e arrondissement, rue de la Faisanderie, et chez lui, il y avait un de ces couloirs qu'il y a dans ces immeubles anciens, un couloir très long, très étroit, qui mène à la cuisine, qui est en général tout au fond de l'appartement. Et ce couloir était bourré d'archives. Donc il a ouvert les portes des placards, je voyais des dossiers, je me disais, il faut absolument que je trouve un moyen de me sortir de cette situation effroyable, parce que si vraiment je dois écrire une biographie d'André Mauroy, je vais y passer le restant de mes jours, c'est pas possible. Il faut être chartiste, enfin non, c'est pas pour moi. Et comme c'était il y a une amitié entre Bobby Naquet et moi, et il n'est plus là aujourd'hui, mais bon, et c'était quelqu'un de tout à fait remarquable, intuitif et qui s'intéressait aux gens. Il a dû sentir mon désarroi et il m'a dit attendez, j'ai quelque chose pour vous. Il est parti au fond de je ne sais où, dans un autre bureau, et il est revenu avec un carton à chapeau. Vous savez, ces boîtes rondes où autrefois les belles dames rangeaient leurs chapeaux. Un énorme carton à chapeau qui débordait de lettres. Et sur le couvercle, quelqu'un avait écrit « Ladies ». C'était 40 ans de correspondance amoureuse. Toutes les lettres, non seulement des femmes aimées à André Mauroy, mais les lettres d'André Mauroy aux femmes aimées, car dans cette famille Mauroy, on ne jetait rien. Non seulement on ne jetait rien, mais on ne jetait même pas les brouillons des lettres, et on gardait aussi des lettres sur, vous savez, le double sur papier carbone, comme on écrivait autrefois. Donc ils écrivaient des lettres d'amour avec un double. Et c'est proche de la folie, enfin. J'ai eu tout ça, plus les journaux intimes de deux d'entre elles. Là, vraiment, j'ai plongé dans le carton à chapeau et j'ai écrit un livre où, si on veut, c'est une biographie de Mauroy en ombre chinoise à travers les portraits des femmes de sa vie.
Alors, puisque nous parlions de toutes ces femmes, j'en ai, comment dirais-je, identifié quelques-unes dont on aurait aimé vous voir proposer les biographies et qu'on ne trouve pas. Alors, je me suis dit, bon, tiens, Adrienne Monnier et son amie Sylvia Beach, Florence Gould, Zelda Fitzgerald, Nathalie Clifford Barney, Gertrude Stein, Alice Toklas, mais surtout, j'ai pensé à Rachilde, la femme d'Alfred Valette, parce que vous avez fait un très beau chapitre dédié au Mercure de France et à la personne de Simone Gallimard. Et finalement, de manière presque naturelle, on aurait pu vous attendre pour justement lire un travail de cette nature.
Écoutez, je vous remercie de me donner une liste et beaucoup d'idées pour les biographies à venir. Vous citez des femmes très, très intéressantes, bien sûr. Je vais retenir surtout la dernière, parce que je vois bien que vous me tendez une perche pour que je parle du Mercure de France. Le Mercure de France a été mon premier éditeur quand j'ai écrit mon premier roman. Et je peux vous dire qu'on se souvient de ce moment-là. La première fois, on signe un contrat d'auteur avec un éditeur. On ne l'oublie jamais. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'être publiée au Mercure de France par une éditrice qui s'appelait Simone Gallimard et à laquelle je dois beaucoup. Donc Colette n'a pas son chapitre, mais Simone Gallimard a son chapitre dans ce livre. Il était temps que je lui dise merci. Elle m'a, non seulement elle a publié mon premier roman, mais elle m'a aidée pour tous les autres. J'ai publié 4 livres au Mercure de France, dont ma biographie de Romain Gary, et ça n'a pas été simple. Tout cela, je le raconte, ce sont les secrets que je raconte. Et c'était une femme très romanesque, finalement, Simone Gallimard. Elle était l'épouse de Claude Gallimard, donc qui dirigeait, après Gaston Gallimard, qui dirigeait la maison. Elle est la mère des 4 enfants Gallimard, dont Antoine Gallimard, qui est l'actuel président des éditions Gallimard. Et c'était une femme donc qui elle avait l'âge d'être ma mère, qui m'a prise sous son aile, qui a eu confiance en moi quand moi je n'avais pas confiance en moi. Je crois que ce premier roman, bien sûr, je l'ai écrit parce qu'il devait être écrit, il est venu tout naturellement, bon voilà. Mais les autres, je crois que je n'aurais pas osé continuer sur cette voie. Je m'étais jamais projetée dans la vie en me disant tu seras écrivain. Non, je n'aurais pas osé. J'aimais lire, j'aimais écrire, mais tout cela, c'était timide, c'était incertain. Et Simone, puisque je l'appelle comme ça, tout le monde l'appelait Simone. À Paris, Simone Gallimard, c'est Simone. Ses enfants même l'appelaient Simone. Et Simone, eh bien, elle a encouragé énormément de jeunes auteurs. Vraiment, on est beaucoup à lui devoir nos débuts. Et voilà. Donc, c'était l'occasion de raconter qui était Simone Gallimard. Le Mercure de France était une maison qui convenait très bien à mon premier roman, qui était un roman d'amour, évidemment, parce que le Mercure de France avait une longue histoire d'amour derrière lui, a publié des auteurs comme Pierre Louis, beaucoup d'auteurs, et a même publié Colette, d'ailleurs, pour le premier livre de Colette sous son nom.
Tout à fait. Et Rémy de Gourmont aussi.
Rémy de Gourmont, donc il y avait un certain érotisme dans les murs de la rue de Condé qui abritait le Mercure de France. On pouvait beaucoup rêver rue de Condé. Ça avait été d'ailleurs l'hôtel de Beaumarchais. Vous savez que Beaumarchais est connu, en dehors du Figaro, etc., pour avoir écrit des lettres d'amour très érotiques, très salées, on peut dire même.
Bien, je crois que le moment est venu peut-être de laisser Madame Bonnat, justement, plus libre encore de vous rencontrer si vous le désirez, pour signer les livres qui sont à l'entrée. Merci à tous,
beaucoup.
Merci d'être venus.
Je vous remercie. À vous.